Dans la paracha Vaïgash, notre regard se porte instinctivement sur la rencontre entre Yosef et ses frères, sur cette fraternité qui se reconstruit après des années de rupture, et particulièrement sur la figure de Yehuda qui est prêt à se sacrifier pour son petit frère Benjamin. Pourtant, un autre fil dramatique traverse le récit, un contre-récit des rivalités fraternelles et filiales que nous invite à lire le Rav Jonathan Sacks. Ce contre-récit est beaucoup plus discret, mais tout aussi déterminant. La question que pose le Rav Sacks est la suivante, et elle est bien connue. Durant les 22 années de séparation, pourquoi Yosef n'a-t-il jamais envoyé à son père le moindre signe de vie? Il connaissait l'amour absolu que Yaakov lui portait. Devenu vice-roi d'Égypte, rien ne l'empêchait de faire parvenir une simple parole, un messager, un indice. Cette question demeure une ombre portée sur l'histoire. Elle ne relève pas, dit le Rav Sacks, d'un détail narratif. Elle reconfigure la manière dont on comprend Yosef, son silence, sa blessure et son chemin intérieur. Mais commençons par le début de la paracha. Vaïgash et la Yehuda. Yehuda s'est approché de lui, de Yosef. Le Midrash dit que le terme de Vaïgash, s'approcher, n'est pas seulement spatial, c'est un mouvement intérieur. Yehuda, à ce moment-là, dans ce face-à-face avec son frère, il ne sait pas encore que c'est son frère, il le devine certainement, mais il ne le sait pas. Yehuda traverse la faute ancienne, la vente de Yosef, la douleur de son père, la responsabilité qu'il porte. Dans ce que l'on peut qualifier être une plaidoirie, Yehuda articule trois phases décisives qui rythment toute sa démarche et dessinent l'ossature même de ce que nous appelons aujourd'hui la justice restaurative moderne. D'abord, Yehuda rappelle son engagement. « Kiavdecha arav et anar, ton serviteur s'est porté garant de l'enfant. » C'est du droit pur, un engagement, une responsabilité assumée de la part de Yehuda. Puis, dans un registre plus intime, il expose la souffrance de son père. Kinafsho kshura benafsho, sa vie est attachée à celle de l'enfant. Le droit n'est rien s'il ne prend pas en compte l'humain. Enfin, dans une troisième étape, il propose une réparation. Vayeshev nav dechat achat anar, que ton serviteur prenne la place de l'enfant. C'est l'acte fondateur. Il se substitue à Benjamin, non pas pour nier la faute, mais pour empêcher que le mal se répète. La manière dont le professeur Raphaël Drey explique la loi du talion éclaire particulièrement et même directement le geste de Yehuda, à savoir un désir de justice qui ne cherche pas la vengeance, mais la responsabilité. Dans la loi du talion, une justice pour temps de crise, Raphaël Drey rappelle que œil pour œil n'a jamais été dans la Torah une vengeance ritualisée. Ce n'est pas la reproduction du mal, mais c'est bien tout l'inverse. Il montre que le talion est une mesure destinée précisément à canaliser la violence, un dispositif de responsabilisation, une éthique de réparation et surtout un frein à l'engrenage infini de la vengeance. Autrement dit, le talion, ce n'est pas la symétrie de la douleur, c'est la symétrie de la responsabilité. Et Yehuda en offre l'illustration la plus aboutie. Il ne réclame pas la punition d'un fautif, il se rend lui-même responsable de ce qui doit être réparé. Dans une expression magnifique, Raphaël Drey dit qu'il ne s'agit pas d'œil pour œil, mais de moi pour lui. Et c'est là que tout se joue. Avec Yehuda, on voit donc une justice qui ne cherche pas un coupable à abattre, mais une responsabilité à assumer. Il ne répète pas le mal, il l'arrête, il transforme le talion en éthique, en réparation et en courage. Mais justement, face à cette grandeur morale, une autre question surgit, presque en miroir, et elle nous dérange parce qu'elle n'appelle pas une réponse simple. Si Yehuda s'avance pour réparer, pourquoi Yosef reste-t-il lui silencieux pendant plus de deux décennies? Pourquoi n'a-t-il jamais envoyé le moindre signe à son père? Pourquoi Yosef ne relève-t-il pas l'honneur familial, la douleur de son père, comme Yehuda a su relever celle de la famille? Cette question n'est donc pas un détail du récit d'Il Rav Sacks, elle ouvre une autre facette de la justice biblique, plus intime, plus troublante, plus humaine. Donc pourquoi Yosef n'a-t-il pas fait savoir à son père qu'il était en vie? Pendant une partie de sa vie en Égypte, lorsqu'il était esclave chez Poutiphar ou lorsqu'il était en prison, cela lui était strictement impossible. Mais il aurait certainement pu le faire lorsqu'il est devenu le deuxième personnage le plus puissant d'Égypte. À tout le moins, Il aurait pu le faire lorsque ses frères sont venus le voir lors de leur premier voyage pour acheter des vivres. Youssef savait combien son père l'aimait. Il devait savoir aussi combien leur séparation le peinait. Il ignorait, ne pouvait savoir ce que Yaakov pensait qu'il lui était arrivé. La lecture donnée par le Rav Sacks offre une lecture très proche du texte et néanmoins très troublante. Et il nous rappelle un événement que nous avons tendance à oublier, l'interaction qu'il a eue avec son père juste avant que celui-ci ne lui demande d'aller retrouver ses frères dans la vallée de Hebron. Il s'agit du deuxième rêve de Yosef. Yosef va donc interpeller son père et ses frères pour leur raconter son deuxième rêve. Et il va leur dire « Écoutez, j'ai fait un autre rêve et cette fois-ci, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant moi. » Son père le réprimande alors. Il est en colère et lui dit « Quel est donc ce rêve que tu as fait ? Est-ce que ta mère, tes frères et moi allons vraiment venir nous prosterner devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui. C'est un fait. Mais Yaakov était lui aussi très en colère contre son fils sur le narratif de ce rêve. Et donc, c'est peu après que nous lisons que Yaakov envoie Yosef seul auprès de ses frères. C'est lors de cette réunion loin de chez eux qu'ils complotèrent pour le tuer, le jetèrent dans une fosse et finissent par le vendre en esclavage. Yosef eut de nombreuses années pour méditer sur cet épisode. Il savait que ses frères lui étaient hostiles, mais Yaakov le savait lui aussi certainement. Dès lors, pourquoi l'avait-il envoyé chez eux ? N'a-t-il pas envisagé qu'il puisse lui faire du mal ? Ignorait-il les dangers de la rivalité fraternelle ? Personne ne le savait mieux par expérience personnelle que Yaakov. Yaakov savait mieux que quiconque que la haine peut mener au meurtre et que la rivalité fraternelle comporte le risque de fratricide. Pourquoi donc Yaakov l'a-t-il envoyé auprès de ses frères ? Précisément, à cause de l'événement précédent que nous rappelle le Rav Sacks, lorsque Yosef a dit à son père que le soleil et la lune, à savoir son père et sa mère, se prosterneraient devant lui. Cela mit Yaakov en colère et Yosef le savait. Son père l'avait réprimandé. Il était inconcevable de suggérer que ses parents se prosterneraient devant lui. D'ailleurs, qui était cette lune ? Rachel, la mère de Yosef, le grand amour de Yaakov, était morte. Il faisait donc vraisemblablement référence à Léa. Mais la simple mention du soleil, de la lune et des 11 étoiles a dû raviver, dit le Rav Sacks, chez son père, la douleur de la mort de Rachel. Yosef savait donc qu'il avait provoqué la colère de son père. Yosef a certainement dû penser que Yaakov avait délibérément mis sa vie en danger. Selon l'interprétation du Rav Sacks, Yosef ne donne plus signe de vie à son père parce qu'il pense sincèrement, mais à tort, que Yaakov l'a rejeté. Aux yeux de Yosef, son père a cessé toute relation. Il n'a pas cherché à le retrouver, n'a envoyé aucun message et semblait avoir accepté sa disparition. Yosef n'avait aucun moyen de savoir que ses frères avaient fabriqué la scène du manteau ensanglanté, ni que Yaakov le pleurait chaque jour, refusant toute consolation. Isolé, vendu, exilé, Yosef conclut logiquement que la rupture venait non pas de ses frères, mais venait de son père. Plusieurs indices du texte soutiennent cette lecture. Yosef savait que Yaakov pouvait se montrer sévère à l'égard de ses fils. Il avait vu Yaakov condamner Shimon et Lévi pour le massacre de Shrem, puis garder ses distances avec Réhouven, avec l'épisode de la couche déplacée et de sa concubine Bila. Ce schéma de distanciation familiale entre le père et ses fils existait donc déjà. À cela s'ajoute un signe poignant que nous avons tendance aussi à oublier. Yosef va nommer son premier fils Ménaché, qui veut dire « car Dieu m'a fait oublier toute la maison de son père ». Ce choix de prénom révèle qu'il associe sa souffrance non seulement à ses frères, mais aussi à Yaakov lui-même. La scène de Vayigash éclaire tout. Lorsque Yehuda raconte que leur père n'a jamais cessé d'aimer Yosef et pensait qu'il avait été mis en pièces par une bête sauvage, Yosef comprend enfin que son père ne l'a jamais abandonné. Cette révélation fait exploser en lui 22 ans de malentendus, d'où ses larmes puissantes. « Velo yachol Yosef litapek » Yosef n'a pas pu retenir son émotion. Et la question qui surgit juste après ses pleurs, « Mon père est-il encore vivant ?» Son monde intérieur s'est renversé. Il retrouve non seulement ses frères, mais il retrouve Et c'est là la magnifique lecture du Rav Sacks de ce passage-là de notre paracha. Yosef retrouve l'amour intact de son père. Le récit devient alors une double leçon de justice. Yehuda incarne la justice restaurative. Il assume, il protège, il brise la chaîne de la faute. Yosef, lui, incarne la justice du regard. Il redécouvre la vérité du récit. Il répare le malentendu dans lequel il a baigné pendant plus de 2 décennies. Il rend justice à son père. Yehuda restaure le lien fraternel. Yosef va lui restaurer le lien filial. La famille peut enfin se recomposer. Shabbat Shalom.